sais, je sais que c'est plate penser à la gestion des ressources, mais je pense que c'est ça, là, c'est comme de la confiture, là. Si tu t'étales partout, ben c'est plus mince partout, c'est tout.
Wow, ah, belle Dieu, j'aime ça.
J'aime ça.
Les Neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif.
Épisode 20, la synergologie, ou comment traduire les non-dits, avec Manuel Constant.
Avec vos animatrices Solène Métayer, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
Salut, salut, c'est Mélissa. J'espère que vous allez bien. Hey, c'est la première fois que je fais pas un épisode. Fait que j'ai décidé de faire comme Fran, puis de m'incruster au montage parce que je la trouve bien drôle quand elle le fait. Fait qu'aujourd'hui, ben, vous allez pouvoir écouter la conversation que mes deux consoeurs, Solène puis Fran, ont eue avec Manuel Constant sur un sujet passionnant qui est la synergologie. Dans le fond, quand on a rencontré Manuel, on s'est posé 40 000 questions qu'on lui a évidemment posées en lien avec la synergo, avec la neurodiversité. Y a-t-il un lien à faire? Y a-t-il des outils à aller chercher là pour s'aider, etc.? Bref, tant qu'à se poser autant de questions à 1000 piastres, on s'est dit aussi bien l'inviter, puis en faire profiter vos oreilles par le fait même. Fait que je vous souhaite une belle écoute, puis je vous souhaite de découvrir un sujet qui va peut-être vous passionner, vous générer un nouvel hyper-focus, ajouter une corde à votre arc multipotentiel ou devenir un nouvel intérêt spécifique, qui sait. Bref, bonne écoute!
Allô, bienvenue à ce nouvel épisode des Neurodivertissantes. Ce matin, on est Fran, il y a moi, Solène, et puis on est avec Manuel Constant, le Cinerman. Wouhou! Salut Manu, comment ça va?
Ça va très bien, vous, mesdames?
Oui!
Très excitée ben oui. De l'épisode.
Oui, on était super contentes de te recevoir aujourd'hui. Donc, d'abord, veux-tu te présenter un peu? C'est-à-dire, nous raconter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et puis voilà, la parole est à toi.
Manuel Constant, je suis synergologue, ça c'est mon fameux gros titre qui veut tout dire et rien dire. Puis ce que je fais surtout dans la vie, c'est que je suis formateur en communication non-verbale. Puis là, juste pour faire ça rapidement, là, souvent les gens ont l'impression que non-verbal, ça a rapport au langage des signes pour les malentendants, c'est pas ça du tout. Là. On parle du body language, donc de tout ce qui est véhiculé comme message à travers les mouvements du corps en interaction. Donc ça, c'est être formateur en communication non-verbale, c'est mon travail.
OK.
J'étais à dire que synergologue, là, c'est vraiment un magnifique titre, by the way, là. Je trouve ça fancy et beautiful at the same time. Mais, je voulais aussi dire que... Ah, j'aime ce mot. Il sonne bien. Il est savoureux. Puis je voulais aussi dire que la langue des signes, tu vois, c'est drôle parce que, c'est vraiment sur ma checklist des langues à apprendre. Je connais quelques signes, mais parce que chaque fois que je vois des gens s'exprimer en langue des signes, je trouve ça tellement naturel et complémentaire. Puis pour moi, je gesticule beaucoup, là, les mains animées. C'est vraiment mon fonctionnement. Fait que j'aimerais vraiment l'apprendre parce que je trouve ça je sais plus quoi faire de mon corps, puis ça me donne une façon, une intention avec mon corps quand je bouge. Bref, voilà.
Non, moi aussi, j'aimerais ça. Ça a l'air.
J'ai envie de te dire, t'es pas game, Fran.
Mais je te dirais que notre neurodivertissant secret exploserait de rire, parce que ça doit faire après 4 ans qu'il va faire le matériel pour apprendre, que j'ai toujours pas commencé, à part mes signes de base comme merci, tu sais.
Ouais, on apprendra ça ensemble, Fran. Mais tu sais, on était censé suivre les cours de Manuel ensemble, puis finalement, tu m'as lâchement abandonné, fait que on en reparlera.
C'est pas par manque d'intérêt, loin de là.
Ouais, parce que Manuel, dans le fond, t'offres trois cours pour introduire la synergologie à l'ensemble de la population, au maximum de gens, finalement. Fait que c'est trois niveaux qui permettent de certifier dans ce fabuleux domaine. Je vais bientôt y arriver, moi, en tout cas. Mm-hmm. Ouais, j'ai cette intention-là. Mais c'est clair que ça sera pas le niveau que toi, tu as, parce que les synergologues, vous êtes pas beaucoup dans le monde, puis il y a un institut spécialisé là-dedans, je pense.
Oui, absolument, on est 300. Puis il y a un seul institut habilité à faire graduer des gens en tant que synergologue. C'est l'Institut québécois de synergologie ou l'Institut européen, mais dans le fond, c'est la même maison mère, là, c'est comme deux sœurs. Mais oui, 300 dans le monde après environ 25 ans, c'est sûr que c'est une sur-spécialisation. Là, ça va encore plus pointu que spécialisation. Mais mon but, c'est justement d'accessibiliser ça puis d'évangéliser ça parce que c'est un outil qui est formidable. Puis moi, je considère qu'il y a eu un manquement au niveau du marketing. Par contre, ben les assises scientifiques sont solides, puis c'est ça qui ont travaillé depuis le temps. Donc, c'est louable de ne pas avoir fait de marketing pendant ce temps-là. Et les choses doivent se faire. Mais moi, ma mission, c'est ça, c'est de rendre ça accessible et surtout applicable aux gens, parce que c'est pas tout le monde qui veut faire un parcours de 3 ans puis qui veut avoir le beau titre fancy de synergologue. Il n'y a pas tant de débouchés que ça non plus, pour ne pas dire il y en a à peu près pas, sauf ce que je fais. Donc, je trouve ça intéressant d'un peu paver la voie pour que ce soit plus applicable là, pour les gens là, directement au day-to-day.
Oui, parce que c'est une science. C'est une vraie science.
Oui, puis là, on peut faire du millage là-dessus. Là. Je ne sais pas à quel point on embarque là-dedans.
Mais j'avais envie de te poser la question, Manuel. Peux-tu nous faire un petit cours d'histoire 101 de la synergologie? Je suis quand même vraiment intéressée.
OK, ben, je vais avec le cours 101 là, historique là, rapidement là, parce qu'on va élaguer les détails qui n'ont pas d'importance. En fait, à la base, c'est dans les années mi-80, là, Philippe Turchet, qui est le fondateur de la synergologie, il faisait son doctorat en sciences politiques ou sinon en philosophie. Je ne me souviens plus lequel des deux. Là. Puis dans le cadre de ses recherches, lui, il regardait un discours chez un politicien donné. Puis il a remarqué qu'il y avait un geste étrange qui est apparu. Puis là, évidemment, dans ce temps-là, c'était sur VHS, là, c'était des cassettes vidéo, tu sais. Puis il a regardé un deuxième discours de cet homme politique-là, puis il a vu le même geste qui revenait. Puis là, ben, il s'est mis à se poser la question, est-ce que tout le monde fait ce geste-là? Il a regardé d'autres discours de d'autres politiciens, il s'est rendu compte que ce geste-là revenait chez d'autres personnes. Puis, tu sais, ça a débuté comme ça, là, très, très, très lentement, avec la pénibilité des VHS. Je veux dire, ça, j'ose même pas imaginer là, dans quoi il s'est plongé. Puis à cette époque-là, Internet n'existait pas. Donc, il s'est mis à faire des recherches parce que il s'est dit, ouais, mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Puis qui est au courant de ça? Puis à travers ses recherches, il s'est rendu compte qu'il y avait très, très peu de littérature scientifique sur le sujet. Donc, tu sais, oui, il a vu Paul Ekman qui avait fait un travail incroyable aux États-Unis, qui est un psychologue, mais c'est uniquement au niveau des expressions faciales. Ou du moins, ça se concentre vraiment presque exclusivement là-dessus. Mm-hmm. Puis, tu sais, mis à part ça, là, il y avait très, très peu de personnes qui avaient fait des recherches. Donc, c'est dit, ben moi, d'abord et avant tout, il faut identifier le phénomène. Donc, je vais décortiquer un peu les gestes sans vouloir tronçonner l'être humain. Tu sais, là, il s'est mis à décrire, bon, geste avec la main gauche, geste avec la main droite, se pencher la tête, elle peut pencher à droite, elle peut pencher à gauche, on peut tourner la tête comme ça. On peut, là, désolé pour les auditeurs qui m'ont pas vu, on peut avoir le menton plus élevé que son interlocuteur, plus baissé. Puis là, ben, il s'est mis à pondre des gestes comme ça, des indices corporels, puis à les identifier, puis à un moment donné, à tenter de leur attribuer un sens, des hypothèses, ce qu'on fait en science. Puis ben là, évidemment, à chaque fois, il validait ou invalidait ces hypothèses par la force des observations empiriques, mais il était tout seul, tu sais, fait que c'était difficile. Fait que ça, c'est dans sa tête, là. Jusqu'à ce que Internet arrive et explose en même temps qu'arrive, lui, ben, il jubilait parce que là, il pouvait avoir accès à des discours de différentes personnes dans des cultures différentes.
Oui.
Puis remarquer tout ça, puis à l'aide de clics, même si ça allait lentement, tu sais, en 96, quand aller chercher une vidéo, c'était aussi long que rembobiner une cassette, là, mais l'accès était là, du moins. Puis donc, sa première cohorte est née en 2001. Il a formé quelques personnes en 2001. Parce que justement, il avait bien travaillé ça, puis là, ben, Internet avait vraiment aidé. Puis en 2001, c'était un petit peu plus rapide là, quand même. Puis là, ben, ces gens-là se sont un peu tous mis ensemble pour valider ou invalider des hypothèses. Puis là, j'entre dans... Ça, c'est pour l'histoire, mais en même temps, ça me fait entrer dans la question, est-ce que c'est une science?
Oui,
c'est qu'en fait, il y a quelque chose là, qu'il faut vraiment démystifier. Là. Quand les gens demandent si quelque chose est une science, là, ben, d'abord, ça prend des critères. C'est quoi les critères pour définir si quelque chose est une science? C'est pas compliqué. N'importe qui va s'entendre pour dire que qu'est-ce qui fait d'une science une science, c'est sa démarche. Est-ce qu'elle est scientifique ou pas? À partir de là, qu'il y a des études ou pas, ça, c'est juste un plus-value. Mais ça ne définit pas quelque chose en tant que science parce que la science, en fait, elle existe toujours avant d'être reconnue. Ça, c'est la deuxième question qui est mixée avec la première souvent par les gens. C'est que les gens, la première question, c'est « ouais, mais il n'y a pas d'études scientifiques, c'est pas une science ». Ben non, c'est juste qu'on est tôt devant encore présentement des études scientifiques. Il va en avoir, c'est une certitude.
Exact.
Pour l'instant, ben, tu sais, ça prend du financement, ça prend des gens qui s'y intéressent.
Mm-hmm.
On n'est plus embryonnaire, on n'est plus là, sauf que c'est pas encore reconnu par le milieu scientifique. Puis ça, il faut le dire aussi, tu sais, c'est honnête, là. C'est une science, mais c'est pas reconnu dans le milieu scientifique.
Ouais,
ça
mais c'est comme
ça met un peu la table.
Ouais, c'est un peu comme les débuts de la psycho, tu sais, au début, la psycho était pas reconnue. Vraiment, puis finalement, c'est devenu une science assez réputée quand même.
Ben, oui, tu dis un peu, mais c'est exactement ça, c'est le même processus, c'est exactement la même chose. T'sais, dans le fond, il y a trois grandes étapes à franchir pour devenir une science, pour être reconnue scientifiquement. Puis c'est trois étapes un peu sociales. T'sais, d'abord, les gens rient de ça. C'est dérisoire. Puis les gens s'en font pas. Après ça, il y a des détracteurs parce que là, ça devient un peu une menace parce que ça change des paradigmes. Mm-hmm. Ça change des états de pensée. Puis le cerveau déteste créer des incohérences comme ça. Ça confronte. Puis après ça, ben il y a l'acceptation. Tu sais, la psychologie, ça a fait la même chose il y a 150 ans, peut-être même pire. Il y a eu une grosse chasse aux sorcières. Puis ouais. Aujourd'hui, les psychologues ne s'en souviennent pas parce qu'ils n'étaient pas là. Mais on est dans le même truc, là. C'est la même chose.
Oui, puis il va y avoir des on va dire, des dans le parcours d'apprentissage, et pas ça, des erreurs. J'aime pas ça appeler des erreurs, mais tu sais, des constats qu'on va corriger, qu'on va modifier. Je veux dire, la psychologie, elle a énormément évolué depuis l'ère de la psychanalyse pure, là.
Ouais, mais c'est le principe même d'une science, de faire mm-hmm. des hypothèses, de réviser les hypothèses, de trouver que finalement, on savait ça, mais c'est pas bon, fait qu'on va corriger ça. C'est le principe même d'une science.
Exactement. Exactement. Puis je suis content que tu dises ça exactement dans ces mots-là, Solène, parce qu'on est là-dedans. Est-ce que la synergologie est la vérité absolue? Absolument pas. Est-ce que c'est la science infuse? Absolument pas, comme n'importe quelle autre science d'ailleurs, ou à peu près, là, à part les sciences dures ou pures, tu sais, comme les mathématiques. Ouais. Mathématiques, je veux dire, il n'y a pas d'autres variables que, tu sais, 1 plus 1 égale 1 dans tous les contextes. Fait que quand tu as compris une formule mathématique... Non, 1 plus 1 égale 2, en fait.
Je suis triste de te corriger, là, mais...
Qu'est-ce que j'ai dit?
Tu as dit 1 plus 1 égale 1. Mais,
oh, mon Dieu!
C'est
à
pas
quel
ça.
Point j'étais dans mes pensées. Bon,
on prend ça comme, tu sais, 1 plus 1, deux partenaires qui s'aiment, égale une dyade relationnelle incroyable.
Voilà. Oh, ouais. Là, on me perd. Wow. Les mathématiques, là, c'est pas mon domaine. Moi, je fais des mathématiques sociales. Mais pour clore ça, en fait, c'est ça, c'est que tu sais, une formule mathématique, elle va se valoir dans tous les cas, dans tous les contextes. Quand tu la comprends, tu peux l'appliquer n'importe où, n'importe quand. C'est pas le cas en sciences sociales, en synergologie non plus. Donc, il y a de la nuance d'interprétation à avoir. Puis oui, effectivement, nos propos sont réfutables, puis ils se solidifient, ils s'améliorent avec le temps parce que les hypothèses sont revalidées ou invalidées avec le temps, puis c'est correct. C'est de l'apprentissage, c'est ça, de la science.
Ben oui. Puis tu disais que, dans le fond, vous aviez regardé dans chaque culture, est-ce que les gestes se répétaient? Donc, c'est-à-dire que peu importe la culture, le geste va être le même?
Grosse question à laquelle on peut pas... tu sais, il y a du « ça dépend » là-dedans, là, la fameuse
oui, ben oui,
que
je m'en doute.
Les gens détestent entendre, mais à peu près à 95%, le langage corporel est universel. À peu près à 95%. C'est un chiffre là, qui sort de mon imaginaire, mais grosso modo, oui, il y a des différences culturelles, mais elles sont maigres. Il n'y en a pas beaucoup. Puis si je donne un exemple très, très, très frappant comme ça, là, les items corporels, finalement, les indices corporels qui sont des déplacements faciaux quand on a de la joie, par exemple, bien, ils sont les mêmes chez un Esquimau que chez un Africain. Là. La seule différence, ça va être le moment auquel ça va apparaître. Puis ça appartient à l'individu, au contexte, à la culture, mais c'est vraiment les mêmes déplacements faciaux. Puis ça, ben c'est facile parce que les déplacements faciaux, tout le monde comprend ça, mais le body language, tout le reste du corps, c'est la même chose pour à peu près tout.
Mais tu disais qu'il y en avait certains, tu disais dans ton cours qu'il y en avait certains gestes qui dépendaient du sens de la lecture, me semble. Mm-hmm, que ça, oui. Effectivement, qui peut être différent, mais sinon, ça c'est...
Qu'est-ce que ça vous
fait partie
dire par...
du 5%, là.
Qu'est-ce que vous voulez dire par le sens de la lecture?
Si on va lire de gauche à droite ou de droite à gauche. Excellent. Donc, par exemple, si tu veux situer... Tu sais, quand on parle d'un événement, par exemple, qui s'est passé dans le temps, donc il y a un début puis il y a une fin, on va généralement, dans notre culture à nous, mettre d'abord du côté gauche puis ensuite du côté droit parce que la séquence logique, c'est ça. Mais quand tu as appris à lire de droite à gauche, ça va être probablement l'inverse. C'est bien ça, Manuel?
Oui, oui, puis en fait, là, je nuance, là, je me permets de faire un cours 101 là, pour
ah, oui,
passer
vas-y.
Sur les yeux. Là, je fais ça en 2 minutes, OK?
Vas-y.
Concernant les mouvements oculaires, la direction du regard, là, il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus. Tu sais, la PNL en parle, les neurosciences en parlent. Puis en synergologie, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'année en année, avec le temps, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons qui peuvent expliquer la direction d'un seul et même regard. C'est-à-dire que si je regarde à droite, mais nous, en synergologie, on a été capable d'isoler, de nommer, de verbaliser environ 15 raisons différentes pour lesquelles on peut regarder là. C'est énorme, là. Donc, on est très loin de passé-futur, c'est toujours ça, tu sais.
Oui.
Fait que les sciences et les disciplines ou les gens qui disent ça sont loin de la réalité. Il faut nuancer. Puis moi, je l'enseigne ça, à gauche le passé, puis à droite le futur, parce qu'environ 80% du temps, ça va être le cas. Puis ça, ben ça peut aider. Puis là, j'apprends comment intervenir avec ça. Ça aussi, c'est super important, mais tout est nuancé. Donc, c'est pas chaque fois qu'on regarde à gauche, ça représente le passé. Chaque fois qu'on regarde à droite, on s'imagine, on se projette dans le futur, on s'imagine quelque chose qui est construit. C'est pas toujours ça, mais 8 fois sur 10, c'est le cas. Donc, ça peut aider. Puis maintenant, dans le fond, on a lié ça au sens de l'écriture. Nous, en Occident, on a appris à lire de gauche à droite. Puis quand on s'en va avec les peuples araméens, par exemple, c'est totalement l'inverse. Donc, les mouvements du regard sont totalement inversés puis sont dans la même proportion, environ 8 fois sur 10, c'est relatif au passé futur. Fait que ça, c'est des données probantes qu'on a, qui sont à l'interne, qui sont pas des études scientifiques, mais c'est des travaux de recherche quand même relativement importants qui nous permettent d'affirmer ça. Puis on le voit aussi, le day-to-day.
Oui, mais c'est justement, en fait, tu amènes un point important, c'est que souvent, la synergologie, qu'on pense à la synergologie, on va se dire, ah, mais tu sais, si tu fermes les bras, par exemple, c'est un signe de fermeture, alors que on découvre que c'est pas ça, ça peut pas toujours être ça, puis dans le fond, qu'il y a tellement de nuances que c'est pas ce qu'on perçoit généralement, que tel geste égale tel geste, il y a toujours un contexte, puis plein d'autres facteurs à considérer, finalement, donc c'est pas... C'est faut suivre tes cours, premièrement. Puis ensuite, on sait déjà que dans tes cours, c'est juste un bref aperçu de tout ce que ça peut être, finalement. Donc, c'est quand même complexe comme science. Oui, Fran?
La question, j'aurais avec ça, puis là, je rewind un petit peu à quand on parlait de différence selon les cultures, là, mais ça fait lien aussi maintenant. D'avoir une notion de différence aussi entre tous ces gestes qu'on fait très spontanément, les réflexes quasiment, puis les gestes appris qui ont une notion culturelle à ce moment-là.
Oui, absolument. Ça aussi, c'est abordé en classe. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment de la nuance à l'infini. Là. Il faut les comprendre, ces gestes-là. Il faut les nommer. Il faut les identifier, puis il faut les enseigner. Puis après ça, il faut mettre ça en contexte. Donc, c'est comme ça avec tous les gestes. Il y a toujours une mise en contexte, puis il y a un apprentissage. Il y a vraiment un enseignement à travers ça. Dans le fond, là, moi, j'aurais envie de vous dire tout ce qui est radical comme propos, que ce soit dans un livre, que ce soit dans un live comme ça, un podcast, tout ce qui est radical, surtout par rapport à la synergologie ou au body language, tenez-vous loin de ça, c'est tout. Tenez-vous-en à des gens qui sont nuancés. Plus le discours est nuancé, bien, plus la personne va être compétente pour le faire. Puis encore là, c'est pas un gage de qualité, mais on se rapproche de quelque chose qui est beaucoup plus près de la réalité que de faire comme je parle avec ma main droite, je suis rigide, tabarnouche, on sortira pas du bois là, si on se met à faire ça.
Je parle si souvent de nuances, j'ai l'air de la fille la moins branchée de la planète à chaque fois dans le podcast, mais c'est parce que les nuances sont tellement importantes, je suis tellement heureuse que tu dises ça, Manuel, parce que c'est dans la synergologie, mais partout, pour moi, tous les discours qui flirtent avec les extrêmes, c'est rarement valide pour moi.
Ouais, à la maîtrise, on disait souvent que notre réponse préférée était la « ça dépend ». Parce que c'était tout le temps ça, tu sais, c'est jamais une seule réponse, puis il faut toujours expliciter notre réponse, finalement.
Ben là, je dois commenter qu'on s'entend très, 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 très bien là-dessus. Ma réponse favorite, c'est « ça dépend », puis la nuance d'interprétation, puis la nuance tout court, c'est mon mot favori. En fait, c'est ce qui me définit en tant que pédagogue, c'est la nuance, puis c'est ce qui ressort toujours des gens quand ils me rencontrent.
Mais c'est un magnifique paradoxe parce que le cerveau n'aime pas du tout les incertitudes. Et donc, notre auditoire à nous, mais bien souvent en formation aussi, veut savoir les certitudes. Ne veut pas, ça dépend.
Mais il y en a une certitude, c'est qu'il n'y en a pas.
Mais c'est pas tout le monde qui veut l'entendre. Je comprends ce que Fran veut dire. Je veux dire, ouais, c'est très vendeur de faire des... Pour moi, ce serait facile de faire des conférences puis de donner des trucs à gauche, à droite, comme ça. Tu sais, de la psychopop, là, les gens en raffolent.
Ben oui.
Les gens, qu'est-ce qui fonctionne le plus sur les réseaux sociaux? C'est les citations.
Oui.
Alors qu'une citation, y a-tu quelque chose de plus creux que ça? C'est extrêmement nuancé, puis ça, tu sais, c'est souvent intelligent, mais c'est une morale qui sert à pas grand-chose, dont personne n'applique. Tout le monde trouve ça intelligent, mais personne l'applique. Puis c'est pourquoi est-ce que c'est si apprécié que ça? C'est parce que c'est facile à véhiculer. Une phrase, on la copie, on la partage, c'est facile à véhiculer. À l'inverse, on a une thèse doctorale. Qui va véhiculer une thèse doctorale? C'est le travail de quasiment une vie. Puis après ça, il faut le verbaliser, puis le vulgariser. Puis là, ben le jeu du téléphone fait que la prochaine personne qui le dit, c'est un peu tout croche, puis c'est réduit, puis c'est décontextualisé, dénaturé. Fait que l'information facile se répète, puis s'intègre, puis s'assimile parce que le cerveau aime la facilité. Puis tout ce qui est complexe, qui est plus intelligent, plus recherché, on meurt avec.
Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est la perspective discursive, dialectique et symbolique. Puis les mots, tu sais, ont tellement de savoir, on en parle souvent dans le podcast, mais les gens, t'sais, comme une citation, c'est facile d'en faire une valise puis de la charger de la symbolique qu'on veut lui donner au final. Donc, les gens se l'approprient et partent avec et l'appliquent dans leur filtre sans nécessairement questionner plus loin que ça.
Ah, effectivement.
Mais là, je suis d'accord.
J'ai une question. En fait, on en a déjà discuté, mais je veux qu'on en discute sur les ondes. Est-ce que tu sais, parce que par exemple, les autistes, on sait qu'on a de la difficulté à comprendre le langage non-verbal. Donc là, c'est, puis toi, ce que tu dis, c'est que c'est quelque chose que tout le monde, ou à peu près, sait décoder sans même l'apport de la synergologie, parce que c'est un mode de communication humain. Puis là, est-ce que ça veut dire que on devrait tous être capables de décoder le non-verbal ou pas? Puis ma question est vraiment floue, là, mais Fran, veux-tu la préciser?
Non, en fait, je voudrais, avant qu'on parte cette discussion-là, faire un petit disclaimer très important, qu'il s'agit vraiment d'une exploration aujourd'hui. On est dans les hypothèses, on réfléchit ensemble, mais il n'y a aucune... solution qui va être appliquée aujourd'hui, aucune réponse. On vient de le mettre à la table avec l'histoire des nuances, mais je trouve ça très important de le préciser là, que nous sommes en réflexion puis en exploration en ce moment.
Oui, parce que dans le fond, parce qu'Emmanuel dit beaucoup que je suis bonne pour interpréter le non-verbal, puis je suis comme non, j'ai dû apprendre à faire ça. C'est un travail constant, puis c'est, tu sais, je dois toujours être en mode analyse. Ok, quand je perçois ça, ça veut dire ça d'habitude, fait que ça devrait être ça encore une fois. Fait que, est-ce que c'est instinctif de comprendre le non-verbal ou pas? Est-ce qu'il y a des neurodivergences qui peuvent avoir un impact là-dessus? Voilà, je te lance
super ça. Super belle question, Solène. Puis d'abord, j'aime le disclaimer aussi. Tu sais, je veux dire, même moi, quand je parle, là, c'est la même chose. Là. Moi, je vais jamais dans l'absolu. Puis je tente le plus souvent possible de souligner que, tu sais, ça reste mon opinion professionnelle et personnelle. Oui, j'ai une plus grande expérience que les gens à ce sujet-là, mais ça reste que c'est pas la vérité absolue, ce que je dis. Donc, c'est pour ça que j'aime la nuance. C'est pas, je veux pas être sur un piédestal. Important disclaimer que vous faites là. Maintenant, pour mon opinion personnelle et professionnelle, selon ce que je connais, Solène, oui, on en a déjà parlé, mais pour les auditeurs, en fait, la synergologie se base presque exclusivement sur ce qu'on pourrait appeler les neurotypiques. Donc, ça exclut toute forme de pathologie, de maladie, de conditions particulières et dont les conditions, ça peut être par exemple la neurodivergence. Là. Donc ça, c'est pas inclus dans les recherches, les observations. Mais par contre, pour mon... Oui, Fran, t'as une question avec que je poursuive?
C'est parti, c'est une étoile filante, je l'ai pas attrapée.
D'accord. Maintenant, ben moi, ce que je dis, c'est que pour les neurotypiques ou les gens qui sont... tu sais, qui ont aucune condition particulière, là où... le commun des mortels, tu sais, monsieur et madame tout le monde, on a tous une base d'excellence pour décoder le langage non-verbal parce que sinon, on survivrait pas. Ce serait impensable de ne pas comprendre quand quelqu'un est en colère et représente une menace pour nous ou alors qu'un membre de notre famille ou quelqu'un qu'on aime ou même qu'on n'aime pas est triste puis c'est le moment de le réconforter. Ce serait impensable socialement parlant. On pourrait pas vivre comme ça. Donc, on doit apprendre à décoder le langage non-verbal des autres sur une base intuitive. Tous ces facteurs-là, c'est des éléments qui sont toutefois observables. Notre cerveau absorbe toutes ces informations-là. C'est juste qu'elles ne sont pas nommées, elles ne sont pas conscientes, mais ça fonctionne quand même. Bon, ça met la table. Donc, tout le monde est déjà excellent, OK? Faut se le dire, là. Il y a quelques cas exceptionnels où, par exemple, si vous êtes en train de marcher à l'épicerie, puis quelqu'un vous croise, puis là, ça fait 10 minutes qu'il vous parle, puis vous êtes pressé, puis vous marchez de reculons, puis ça fait 4 fois que vous lui dites bye, puis il continue. Ben là, on peut se douter que c'est peut-être quelqu'un qui décode moins bien, ou encore qui a tellement besoin d'attention qu'il passe outre sa détection du... Mais bon, ça, c'est une autre question. Je vais tenter de ne pas divaguer. Mais c'est ça, tu sais, tout le monde est déjà bon. Moi, ce que je dis souvent, c'est que la synergologie, en fait, ça rationalise l'intuition. Puis au-delà de ça, ben c'est qu'il y a quand même plusieurs gestes que j'ai appris dont je ne me serais jamais douté. Donc, finalement, des fois, on n'est pas obligé d'avoir le tableau complet de quelqu'un qui est triste. On n'est pas obligé d'avoir tous les éléments pour comprendre que c'est un signe précurseur à une crise qui s'en vient ou à un état quelconque. Tu sais, des fois, on peut remarquer que, puis là, ça va loin, là, ce que je veux dire. Je sais qu'il y a des gens qui vont détester ce que je veux dire, mais c'est une réalité. Parfois, ça arrive qu'à travers un signe aussi minime qu'un œil qui est plus petit alors qu'il ne l'est pas d'habitude, on peut détecter le début d'un mal-être ou d'une dépression, de tout ce qui tourne alentour de ça, sans mettre de mots dessus, chez un individu. Donc, Christy, là, c'est un signe précurseur qui est super important, qui n'avait jamais été nommé, observé avant la synergo. Puis là, ben nous, on est capable de le faire. Puis moi, en zone terrain, ça fonctionne environ 8 fois sur 10. Tu sais, même si tu l'échappes 2 fois sur 10, après ça, même s'il y a 2 fois sur 10 où tu t'es dit, oh, peut-être que cette personne-là commence à aller moins bien, puis c'est pas vrai, qu'est-ce mm-hmm. que ça fait? Tu sais, c'est, premièrement, tu n'as pas toujours une intervention à faire. Puis même si tu manques ton coup, tu sais, tu as nuit à personne, tu n'as pas jugé, tu as juste posé une meilleure question pour avoir de l'info, puis tu ne l'as pas eu, c'est pas grave. Mais bon, j'en reviens à...
Tu viens de dire quelque chose de vraiment super important, je m'excuse de t'interrompre, mais tu viens de dire ne pas juger, et c'est effectivement quelque chose qui est super important, de ne jamais juger la personne et de juste accueillir les informations qu'on a.
Ben, c'est non seulement important, mais c'est nécessaire si on veut bien interpréter le body language. Parce que dès qu'on tombe dans le jugement, tu sais, pour moi, le jugement est antagoniste à la compréhension. Dès qu'il y a le moindre jugement ou un préjugé qui s'immisce dans le cerveau de la personne sur quelqu'un d'autre, c'est impossible qu'on soit dans la pleine compréhension. Puis à l'inverse, dès qu'on est dans la pleine compréhension, qu'on accueille, qu'on accepte et qu'on est intéressé à comprendre l'autre, ben, il n'y a pas de jugement. C'est pas, pour moi, il n'y a pas de nuance là-dedans. Ça, c'est une des rares choses dans la vie pour lesquelles, pour moi, c'est dichotomique. Là. C'est tu es dans la compréhension ou dans le jugement. Que ce soit conscient ou inconscient, dans les deux cas, pour moi, c'est une switch on off. Là. C'est, tu bascules d'un côté ou de l'autre.
Non, lorsque je comprends et ce que je détecte dans tout ce que tu dis, Emmanuel, moi, ce que je vois, là, c'est qu'il y a probablement une notion d'attitude transversale, donc de savoir-être, qui, à la base, va influencer ta compétence. Donc, tu peux être ultra compétent dans la lecture, la détection, mais selon ta disponibilité mentale et émotionnelle, ton ouverture à l'autre, tu vas appliquer différemment. Et dans les compétences, genre, d'identifier donc deux, il y a cette notion de détection, d'être capable de... Je vois et je repère. Et il y a ensuite l'application. Donc, j'ai beau avoir traité l'information consciemment ou inconsciemment, est-ce que mon besoin de par l'attitude, je suis capable de le faire passer avant ou après? Est-ce que je suis capable d'appliquer le comportement ou l'attitude réciproque attendue? Tu sais, là, je fais plaigner parce que moi, je travaille en santé mentale, puis souvent, il y a des gens qui ont justement sont dans des phases où leurs capacités de détection ou d'application sont altérées par l'état psychotique, par exemple. Et je vois que ces deux compétences quand même franchement différentes. Mais là, c'est une hypothèse que j'aimais, puis je me valide auprès de toi.
Tu as totalement raison. Tu es en plein dedans. Ça prend un savoir-être. Tu sais, ça prend du savoir, ça prend du savoir-faire. Puis là, tout ça, c'est bien beau, mais il y a aussi le savoir-être là-dedans. Mm-hmm. Sans vouloir, tu sais, je ne cherche pas à diminuer qui que ce soit, mais dans tous les métiers, je veux dire, il y a des degrés de compétences différents pour le même titre. Un psychologue n'en vaut pas un autre, c'est pas vrai. C'est teinté d'une personnalité, d'une expérience, de plein de trucs innommables qui sont typiquement humains. Puis une personne n'en vaut pas une autre, donc un professionnel non plus. Puis en plus, il y a une question des fois de chimie, de moment, d'humeur. Tu sais, fait que tout ça, ça change à chaque instant. Mais grosso modo, un professionnel n'en vaut pas un autre. Donc, tu sais, de dire un synergologue est nécessairement compétent, ben c'est la même chose avec les psychologues. Ben non, pas forcément. La personne, c'est sûr qu'elle a appris, elle a un seuil de rétention de l'information, puis elle est capable d'expliquer les concepts. Après ça, l'application, est-ce qu'elle est bonne ou mauvaise, ou n'importe où entre les deux? Là, c'est subjectif, déjà en partant. Puis deuxièmement, ben c'est ça, je pense que ça dépend de l'individu puis d'un paquet d'autres facteurs. Fait que moi, j'endosse pas forcément tout ce que les autres synergologues disent. Tu sais, loin de là, des fois, j'entends des choses, je me dis faudrait peut-être pas aller là, ou du moins ne pas le véhiculer comme ça. Mais ça veut pas dire que je suis pas en accord avec les synergologues. La très grande majorité du temps, je suis très en accord. Mais dans la nuance du discours, tout comme dans l'application, la capacité d'application, tu sais, là, je veux dire, ça demande une capacité de discernement. Tu sais, tout ça, comment ça s'enseigne, la capacité de discernement? Bonne chance, je pense, pour enseigner ça, puis surtout pour le faire appliquer aux gens. Moi, je tente de le faire à travers mes classes, mais tu sais, c'est pas gagné.
Mais oui, puis surtout le fameux gros bon sens, alors que chaque personne a son propre gros bon sens, c'est la définition de celle-ci. Puis tu me fais penser aussi, j'ajoute à tout ce qu'on vient de nommer, tout ce que tu le disais un peu, mais je vais l'expliciter, cette notion des ressources, parce qu'on est tous affectés de manière différente par notre réalité interne et notre environnement externe, puis on va avoir plus de disponibilité à détecter, appliquer ou à avoir le savoir-être empathique et ouvert vers l'autre selon nos ressources du moment. Tu sais, je sais que c'est plate de penser à la gestion des ressources, mais je pense que c'est ça, là, c'est comme de la confiture. Là. Si tu t'étales partout, ben c'est plus mince partout. C'est tout.
Wow, ah, belle métaphore.
J'aime ça. J'aime ça. C'est vrai que c'est ça. Puis même si je le ramène à moi, tu sais, admettons, c'est complètement farfelu ce que je dis là, et fictif. Là. Admettons que je suis le meilleur synergologue au monde. Je suis la personne la plus apte à détecter ça puis à l'appliquer au monde. OK, bon, c'est le fun. Maintenant, quand je suis en colère moi-même, parce que ça peut m'arriver, hein, je suis pas Bouddha, je suis pas Jésus. Je suis pas une idole quelconque. Donc, le moment où je suis en colère, mais tu sais, je retombe à zéro. Là. Je peux pas utiliser mes capacités puis ma faculté d'application. Là. Mm-hmm. Fait que ça arrive à tout le monde, tu sais, à tout moment, c'est variable tout ça. Là.
Puis, excusez-moi, c'est pas du coq à l'âne parce que c'est dans le sujet, là, mais je change de sujet. Il y a des liens. Okay. Non, mais je nous ramène à la discussion. Là, tu nous expliquais, si je récapitule, que ça a été beaucoup étudié sur le langage neurotypique. Quand on pense à la neurodivergence, on parle souvent d'un langage différent, justement, de manière générale, puis qu'il y a des enjeux de traduction, des fois, entre neurotypique et neurodivergent. Si on ramène ça à la synergologie, est-ce que tu as envie de t'exprimer là-dessus? Ou comme là, ce que tu disais, que tout le monde est excellent, mais ces enjeux de traduction-là, comment ils peuvent se traduire? Pas se traduire. Hey, mon Dieu. Se manifester.
Oui, j'ai très envie de répondre à ça. De toute façon, j'étais pour revenir à la question de Solène à laquelle j'avais jamais répondu.
Merci.
Je l'avais en tête depuis
tantôt. Je me sens oublié un peu, mais non, on fait toujours des divergences comme toujours. Ça. On est bonnes là-dedans. Fait que vas-y.
Donc, oui, c'est ça, les neurotypiques ou le commun des mortels a une faculté d'excellence, si on a un seuil d'excellence pour détecter et interpréter le body language des gens. C'est correct. Moi, ce que j'aime dire, ou du moins ce que j'aime penser, parce que j'ai fait affaire avec... Moi, je fais pas de coaching, hein, je fais juste de la formation. J'ai fait affaire avec peu de gens qui sont neurodivergents. Puis j'aime à penser que lorsque les gens sont pas capables de le faire de façon intuitive, ce décodage-là, j'aime à penser que d'apporter des notions rationnelles puis de nommer les choses, ça peut les aider. Je pense que c'est le cas. Après ça, dans quelle mesure, je ne sais pas. Mais je pense que je peux emmener quelqu'un qui est vraiment moins apte, moins habilité à décoder le langage non-verbal à un seuil, tu sais, acceptable, ou du moins qui a une nette amélioration ou une amélioration quelconque. Puis j'aime à penser aussi que c'est la même chose. Ça, j'aime pas à le penser, c'est un fait. Les gens qui s'assoient dans ma classe, qui sont convaincus d'être très, très, très bons avec le body language, en sortent, puis même après juste deux jours, ils font comme « waouh, je ne m'imaginais pas à quel point j'étais pourri ». Ça veut pas dire qu'ils étaient pourris, mais eux aussi gagnent en amélioration. Donc, pour revenir à la question de Solène, je pense que la synergologie peut être un outil de choix ou du moins envisageable pour améliorer ces compétences-là chez une partie des neurodivergents. Je pense que ça répond un peu à la question de Solène.
Oui, effectivement, mais en fait, c'est un peu ce qu'on discutait tantôt, que Fran et moi, on disait qu'on perçoit les signes, mais c'est juste l'interprétation qui est moins là. Et souvent, c'est ce qu'on va faire consciemment, la traduction, puis dire, OK, ben si je perçois ça, généralement, ça veut dire ça, donc ça devrait être ça, mais c'est un travail constant. Puis c'est pas inné, ça va toujours être acquis finalement. Mais c'est vrai que d'être j'ai suivi quatre jours de tes cours, puis c'est vrai que c'est plein de signes que tu fais. Ben oui, je le savais, puis en même temps, je le savais pas. Tu sais. C'est on apprend plein de choses, puis c'est de confirmer un peu nos intuitions, mais c'est un travail qui en tout cas moi me sied bien parce que c'est d'aller dans le côté rationnel puis faire ça peut vouloir dire ça, donc c'est un indice de plus finalement.
Puis, j'ai envie de Fran, je te laisse la parole après, puis de toute façon j'ai pas répondu à ton autre question, j'y reviens, mais j'ai envie d'atténuer mes propres propos par rapport à ce que tu viens de dire, Solène. Non, mais tu sais, faut le dire, faut être honnête.
Oui.
C'est ça l'important, tu sais, je veux dire, toi tu es capable d'avoir une capacité de discernement, tu as cette capacité-là. Tu sais, j'ai rencontré certains TSA qui ne l'ont pas, qui sont pas capables d'aller dans la nuance, sont incapables, ils doivent avoir des règles strictes pour fonctionner socialement. Donc, avec ces personnes-là, c'est sûr que ce serait impossible de dire des mots comme « généralement ». Généralement, tel truc veut dire ça, parce que la personne ne sera pas capable de trancher quand oui et quand non. Fait que là, tu sais, il faut être honnête avec ça. Tu sais, il y a certaines personnes avec des conditions, tu sais, qu'on peut pas faire dans la nuance si leur cerveau fonctionne dans la radicalité, dans des trucs qui sont tranchés et catégoriques. Je le sais pas dans quelle mesure on peut les aider. oui. avec la synergologie. Il faut être honnête.
Oui, non, effectivement, c'est une limite que ça... Fran, depuis tantôt que tu veux parler, vas-y. Oui.
Je prends des notes, il y a trop de trucs que je veux dire, puis je ne sais même plus s'ils sont rendus à propos, ça n'a pas de bon sens. Au moins, je prends des notes, j'ai développé une stratégie.
Hey, wow!
Mais attends, avant, est-ce que, Emmanuel, tu voudrais répondre à la question avant que j'arrive avec d'autres choses, parce que...
Oui, en fait, la question qui était, est-ce que les neurodivergents ou les gens avec des conditions particulières peuvent avoir un body language qui est différent? C'était ça, ta question?
Je pense que oui, je l'ai entre-temps...
Mais c'est une bonne question, fait que vas-y, réponds à ça.
Ben oui, c'est possible. Oui, c'est possible, mais reste que on reste un peu dans le même truc de 95% là, tu sais, qui est universel là, un peu dans le body language. Je veux dire, tu sais, un neuro atypique là, qui est triste, là, il va en avoir des traits dans le visage. Nous, en Synergo, ce qu'on dit, c'est qu'une émotion qui ne s'observe pas, ne se détecte pas, n'existe pas. Puis moi, je me rends compte, tu sais, ça, c'est un propos qui est relativement radical, là. Mais quand on fait son parcours synergologique, on s'aperçoit que c'est vrai parce que l'émotion, à la base, c'est un mouvement. L'étymologie grecque du mot émotion, c'est émovere, c'est mouvement. Donc, l'émotion, si on s'entend pour dire que c'est la définition, c'est une réaction physiologique, là, ben, il faudrait aller creux, là, faudrait voir plus loin que ça, là. C'est pas moi qui va être capable d'exposer tout ça, là, ce matin en deux minutes, là. Mais si on s'entend pour ça, ben, tu sais, s'il y a un mouvement, on doit le voir, même s'il est peu perceptible. Même s'il est subreptice, on le voit. Un synergologue, un œil averti, voit des mouvements corporels. Puis donc, même chez quelqu'un qui bouge peu, tu sais, souvent, je reçois le truc, « Oui, mais moi, je suis introverti, là. C'est sûr que l'extraverti, il y a beaucoup plus de body language. » Non, il n'y en a pas plus. C'est juste que ses gestes sont plus amples. Il y a une voix qui est souvent plus tonifiée, qui est plus dynamique. Les gestes sont plus amples, mais les gestes sont là quand même chez un introverti. Puis souvent aussi, c'est que la personne qui est introvertie, comme moi, par exemple, est quelqu'un qui est très introspectif aussi. Pas toujours, mais souvent. Puis donc, quelqu'un qui est introspectif, bien, c'est souvent dans sa tête. Puis oui, il y a moins de body language en fréquence, mais surtout en amplitude. Mais ça reste les gestes, les signaux sont les mêmes. Puis ça reste qu'on n'est pas non plus un robot. Même si on pense qu'on était un introverti réservé, fini, il y en a des gestes. À chaque minute, il y en a plein. Il y en a du stock à décoder.
Oui, mais tu vois, tu parlais des émotions qui étaient d'abord une réaction physique, puis ensuite corporelle, puis Fran essaie tellement de se retenir en ce moment, c'est beau.
Non, c'est moi, parce que je me suis rendu compte, quand j'ai arrêté de parler, que j'ai pas répondu à la question de Fran.
Pas grave, j'ai 158 réactions à ajouter, fait que on peut ne jamais y répondre.
Bon, écoute, je rebondis sur ce que tu viens de dire, puis après ça, tu vas pouvoir répondre. Mais c'est ça, tu parlais des émotions qui étaient d'abord corporelles, puis... ça me faisait penser que quand j'ai beaucoup de difficultés à identifier mes émotions, c'est quelque chose que je ne perçois pas chez moi de « OK, comment je me sens en ce moment? I don't know. » Puis c'est quelque chose, c'est un travail que j'ai fait avec ma psy de dire « OK, ben je ressens ça, puis il s'est passé ça, fait que ça doit être telle émotion. » Et donc, j'ai appris à décoder l'émotion, mais c'est quelque chose que tu disais en classe que ça devenait un sentiment qu'on rationalisait, en fait, les signaux corporels. Et donc, c'est quelque chose, effectivement, que chez moi, en tout cas, je pense que c'est l'étape que j'ai pas. Que je vais avoir les signaux corporels, puis après ça, de décoder pour dire, OK, ça veut dire ça, je l'ai moins. Puis je trouvais ça intéressant qu'en synergo, il y ait des signes comme ça qu'on peut percevoir qui signalent une émotion, puis que ça peut vouloir dire tel état, par exemple. Ben, je trouvais ça le fun comme outil, finalement. Voilà.
Hey, j'ai envie là, de faire quelque chose là, en une minute, OK?
Vas-y.
Si les gens qui veulent pas venir là, dans mes cours, qui ont de la difficulté à décoder les émotions, peu importe, là, je suis pas forcément le spécialiste mondial, là, mais il y a deux concepts fondamentaux qui sont très, très simples, puis il y a personne qui peut s'ostiner avec ça. Si vous vous sentez pas bien, là, peu importe le mot qu'on verbalise pour mettre sur cette émotion, cet état-là, quand on se sent pas bien, c'est qu'on s'éloigne de ce qui est optimal pour nous. Puis quand on se sent bien, c'est qu'on s'en rapproche. C'est pas si compliqué que ça quand même. Là. On n'est pas obligé de tout expliquer. Je veux dire, quand on se sent pas bien avec quelqu'un ou dans une situation, ben on peut la fuir. On peut aussi la confronter puis travailler dessus personnellement, mais ça nous indique, c'est une boussole, finalement, notre état, s'il est négatif ou positif, parce qu'il n'est jamais neutre en passant. Est-ce que je m'en vais plus vers quelque chose qui me plaît ou dont j'ai besoin, ou est-ce que mes besoins sont insatisfaits? Tu sais, c'est assez simple quand même. Deuxième concept très simple que j'adore, que j'ai développé avec le temps en synergo, c'est que je m'aperçois que toute contraction musculaire inutile représente une tension interne. on n'est pas obligé de mettre de mots à ça. Là. C'est un stress quelconque. Donc, que ce soit, je ne sais pas moi, de l'aversion, de la réticence, de la résistance, on s'en fout du mot, c'est négatif. Quand on a des contractions musculaires, qu'on est crispé finalement, puis que ce n'est pas utile à la situation actuelle, qu'il n'y a aucune utilité finalement à avoir les trapèzes contractés ou les mains serrées une dans l'autre, mais ça représente un stress quelconque. T'sais. C'est pas si compliqué que ça. Fait que juste ces deux concepts-là, pour les gens qui ne veulent pas aller faire des cours ici et ça, t'sais, quand on regarde quelqu'un, le concept de contraction musculaire inutile, là, bon, ça parle en tabarnouche. Fait que là, évidemment, on exclut les conditions t'sais, pathologiques. Je pense à des maladies qui sont vraiment neurologiques. Là, t'sais. C'est sûr que quelqu'un qui a le Parkinson ou des trucs comme ça, mais t'sais, on n'ira pas. Ben oui. Pas à jauger de sa tétanisation musculaire, ça n'a pas rapport.
Est-ce qu'une contraction musculaire pour retenir toutes les 150 idées qui veulent sortir de ta bouche en même temps représente un stress? Moi, je crois que oui.
Ben oui, Fran, moi, pour moi, tu sais, le stress, c'est gros, hein, c'est un gros mot, c'est une grosse classe fourre-tout. Puis dans le fond, le fait de se retenir, de dire quelque chose, c'est une forme de stress. Oui. C'est de l'énergie qui est accumulée, qui ne peut pas sortir. Il faut qu'elle se manifeste. Puis elle se manifeste en faisant gigoter ton crayon. entre autres, puis en ayant la bougeotte, tu sais, c'est de l'énergie. Faut que ça soit en mouvement.
C'est ça. Puis là, moi, ma question à la blague, c'était de dire, tu sais, moi, je suis une introvertie, mais je bouge beaucoup. Fait que dans le fond, est-ce que je suis genre en fast forward? En fait, est-ce que je vis ma vie en accéléré? C'est ça ma question.
ça serait subjectif de répondre à ça, mais moi, personnellement, je répondrais en disant oui. Moi, je te vois aller. Depuis tantôt, là, les auditeurs ne te voient pas, mais moi, je te vois aller. Puis on en a parlé un petit peu tantôt. Oui. Mais tu sais, moi, je le vois que tu es sur Fast Forward. Tu sais, les idées, tu n'arrêtes pas de le dire. Tu sais, j'ai 158 idées. Je le vois, ils passent, ils viennent, il y en a un autre qui arrive. Tu sais, tu es dans des états, tu as une plus grande fréquence d'états différents que la plupart des gens. C'est ça que je pourrais dire. Fait que tu sais, la lecture du body language doit se faire vite avec toi. Ça prend, là, dans ton cas, ça prend quelqu'un qui a l'œil averti, là, qui est un guerrier, là, vraiment. Pas ouais. De language, là, mais moi, je le vois, je les vois, tes états passés.
Parce que je vois mes idées qui passent, puis je suis comme, ça apparaît tellement dans ma face, là, c'est ça.
Oui, mais il y a un signe qui est super facile à identifier chez Fran, c'est quand elle veut parler, c'est, elle met ses doigts sur sa bouche, puis là, c'est sûr qu'elle est en train de se retenir, là.
Là, je voulais continuer mes 1000 réflexions.
Mais il a toujours pas répondu à ta question, par exemple.
Ah, pour
la mais oui, différence... il a répondu.
Ah oui, oui, il a répondu. Oui, okay, oui. C'est moi qui a perdu le film. Fait que vas-y, Fran, vas-y.
Non, mais on l'a juste incrusté en pleine complexité puis de nuances parce que c'était plus savoureux encore. C'était pas une réponse. Mais non, mais j'allais dire, je pense que la psychiatre qui a fait mon évaluation me dirait que ce serait vraiment pas une bonne idée que je la suive tes cours pour la simple et bonne raison qu'elle m'expliquait que mon cerveau fonctionne d'une manière où je dois être constamment stimulée. Et c'est pour ça que j'adore analyser les gens quand je suis en facilitation et animation d'une réunion parce que ça me stimule beaucoup, ça me demande un effort. Et si on me donne plus d'outils, ça va être pire que pire. Fait que ça, c'était une chose. L'autre chose que je voulais dire, c'était... Donc, si je conclue un petit peu au niveau neurodivergence neurotypique, là, c'est comme ça, en fait, on a cette espèce de trame de fond de langage universel profondément humain qui s'inscrit dans la neurodiversité, donc tout le monde. Et après, ben, t'as par-dessus ça le filtre de parler français, anglais, langue des signes, tout ce qui est neurodivergent. Puis là, je pensais à une vidéo que j'aimerais peut-être qu'on mette d'ailleurs à notre auditoire. Là.
Okay.
C'est la vidéo de Mel Bags. Je sais pas si tu connais Solène.
Non.
Qui est sur YouTube, qui est une militante autiste qui a voulu exprimer cette notion de traduction. Donc, elle, c'est une personne qui est non-verbale puis qui a vraiment été traduire avec une machine de saisie de synthèse vocale là, ou de texte, je ne sais plus trop. Là. Et elle traduit par-dessus ce qu'on voit visuellement, ce que ça représente. Et c'est tellement frappant comment les gens, on va dire, verbaux perçoivent qu'elle ne comprend rien, qu'elle ne sait pas s'exprimer, alors qu'en fait... c'est tout elle qui compose le texte traduit en verbal non neurotypique, en fait. Donc, ça m'amène là. Je ne sais pas si ça a fait du sens ce que je viens de dire, mais il y avait
des... Moi, en tout cas, je suis intéressée à le voir, cette vidéo-là.
Ben, oui, Mailbags, in my words, je pense, je ne sais plus trop le nom exact, là, in my language, je pense. On le mettra à ce
moment. On va le mettre en lien de l'épisode, c'est sûr et certain. Hein.
Oui. Mais c'est sûr que c'est un cas, on va dire, plus extrême de traduction, mais moi, je sais que ça m'avait frappé, cette notion de... Comment on interprète que la personne ne comprend pas parce qu'elle ne parle pas notre langage, en fait, alors qu'elle est très capable de traduire vers le nôtre, mais nous ne sommes pas capables de le faire dans l'autre sens. C'est comme la personne neurodivergente, elle est en handicap quand elle ne comprend pas le langage neurotypique, mais l'inverse n'est pas vrai, socialement parlant. Voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
Ça se peut! My God!
Tu l'as dit?
Ouais, on va prendre une gorgée d'eau.
Et puis, mais tu avais raison, Solène, j'avais quand même pas répondu pleinement à la question de Fran, mais okay. Tu sais, ça, on s'en parlera en privé pour vrai, parce que là, je veux dire, on pourrait faire un épisode de 3 heures.
Complet.
Tu sais, c'est surtout que ça prend un peu de notion synergologique pour entrer dans ce sujet-là. Puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que malheureusement, ou heureusement, on s'en fout, c'est selon, en quelque part, oui, le savoir-être, ça devient un art. Là.
Oui,
donc, tu sais, il y a du savoir, il y a du savoir-faire, mais le savoir-être, là, c'est une forme d'art. Là. Quand déterminer que, tu sais, on l'a dit tantôt, la capacité de discernement, le bon jugement ou le jugement tout court, tu sais, dans quelle mesure est-ce qu'il est bon, le raisonnement se fait, tu sais, je veux dire, ça, c'est individuel, puis ça devient de l'art. Tout ça, tu sais, notre cerveau décode un peu tous ces trucs-là. Puis la synergologie, bien, dans le fond, ça ne fait pas exception à ça. C'est que quand on apprend de façon rationnelle et qu'on est très intéressé, comme moi, à l'appliquer dans la vie réelle, à tous les jours, des centaines de fois par jour, bien, notre cerveau cumule juste plus de données. Puis on se fait une tête aussi là-dessus. Puis dans le fond, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, puis on comprend. C'est pour ça que quand je vais arriver, par exemple, devant probablement un TSA, par exemple, qui est non-verbal, bien, tu sais, je vais voir des choses, puis je vais comprendre des choses que les autres ne verront pas. Parce que mon jugement est moins erroné, parce que, un, il y a plus de données, puis deux, il y a plus de connaissances, puis d'expérience aussi par rapport à ça. Puis là, ben, il y a l'art aussi qui vient jouer là-dedans. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais tout ça dans la forme de non-jugement, tu sais, quand on est dans cette posture-là, mon Dieu, qu'on est plus réceptif.
Oui, mon Dieu, oui.
Oui,
c'est beau.
Oui, tout à fait. Mais est-ce que, parce que tu disais avoir comme plus de données que les gens, donc est-ce que c'est que tu es inondé de comment ça fonctionne dans ta tête? Est-ce que tu es inondé d'informations? Puis parce que là, tu sais, puis ouais, je sais pas, je trouve ça, parce que moi, tu sais, j'ai l'origine de ma question, c'est que là, j'ai donc suivi tes cours, puis là, il y a plein d'informations à avoir, puis à part d'être sur vidéo puis de vraiment être en train de chercher ces signes-là, je veux dire, il y a trop de choses qui se passent à la minute pour que je puisse m'en rendre compte. Fait que c'est comme, est-ce que c'est vraiment un outil qui... Attends, c'est quoi ma question? ouais, est-ce que je me perds moi-même? Mais est-ce que c'est utile, finalement, d'avoir ces données-là? Comment tu t'en sers?
Je réponds en 3 volets. Moi, mon parcours de Synergo, là, qui a duré entre 2 et 3 ans, tu sais, là-dedans, on apprend environ le 1750 gestes différents et leur signification et une nomenclature longue comme le bras qui vient avec. Moi, je les connais, quand je suis sorti, là, je les connaissais tous par cœur. Moins aujourd'hui, parce qu'il y en a plein dont je ne me sers pas, mais quand même, j'ai un stock d'informations rationnelles de base dans ma tête. Fait que oui, j'ai un paquet de notions. S'ajoute à ça le fait que je suis un individu qui est très, très, très analytique. Tu sais, on ne peut pas se comparer à moi, pas parce que je suis meilleur que les autres, parce que je suis tellement spécifique. Tu sais, j'ai un profil qui est très, très, très atypique. Puis moi, dans ma tête, je fais des expériences constantes avec les interactions sociales. Que je sois impliqué ou pas, je me pose mille et une questions. Puis ces données-là, ben oui, elles sont subjectives, mais ça fait partie d'un amalgame de données que je conserve, que mon cerveau stocke, puis qui compare l'une à l'autre tout le temps, à l'infini. Puis ça, ben, je peux pas l'exposer.
Ouais, mais...
Donc oui, dans ma tête, c'est un, je dirais pas que c'est chaotique, mais c'est bourré, c'est loadé. C'est surchargé de données interpersonnelles. Puis mes liens se font tout seuls grâce, un, à la synergologie et aux trucs rationnels, et deux, à mon expérience là-dessus. Mais ça, mon deuxième volet, c'est que je peux pas enseigner ça aux gens. Puis je m'attends pas à ça des gens. C'est pour ça que je veux rendre la chose accessible et surtout applicable. Moi, en 6 jours, j'enseigne environ 70 gestes à interpréter, mais surtout de le faire dans la nuance, puis comment interagir avec ça. Ça, dans le fond, dans cette mesure-là, je pense que je rends ça applicable. Ça répond un peu à ta question. Mais pour moi, c'est la vie, c'est un laboratoire, puis chaque conversation représente une expérience. Là.
OK, fait qu'on est des rats de laboratoire pour toi, c'est ça que tu es en train de dire? Là?
Oui et non. c'est toujours c'est tout le temps dans une optique de compréhension, jamais dans le jugement. Puis je suis pas toujours non plus en train d'analyser. Tu sais, oui, je vois beaucoup de choses. J'en ai parlé cette semaine au show de David Quentin sur LinkedIn. Je vois un millier de choses. Je vois pas tout non plus. Tu sais, faut pas se leurrer, là. Je suis pas, tu sais, Cinerman, là. C'est un personnage très fictif, là. Je vois plus de choses que les gens, oui. Je ne vois pas tout, non. C'est surtout que c'est pas tout qui est pertinent. Donc, il y a un paquet de trucs que je vois qui est pas pertinent, mais que moi, je récolte, puis j'analyse quand même. puis ça me sert, même si c'est pas pertinent puis qu'il n'y a pas d'enjeu. Tu sais, mon cerveau compare ça à d'autres situations, puis ça fait comme, OK, la plupart des gens qui font ce geste-là sont dans ce type d'état-là. Puis en mettant le moins de mots possible aussi dessus, parce que justement, il faut rester nuancé et général, puis ne pas prêter des mots, encore moins des émotions aux gens. Ça, c'est vraiment, c'est arrogant de faire ça, là, c'est prétentieux. Mais bon, c'est ça. Je me souviens plus qu'est-ce que je voulais dire pour clore ça, là, mais...
Moi, je me suis pris... quelque chose à dire.
Non, mais je me suis pris des notes, puis j'arrive pas à me relire, donc c'est ça qui est ça. Mais j'allais quand même dire, là, je vais parler pour moi, mais je suis pas mal convaincue que ça va résonner pour Solène et Mélissa. Mais je me sens vraiment moins seule dans ce que tu dis, Manuel, parce que, tu sais, moi, j'ai l'impression que dans ma tête, c'est constamment ça. C'est comme je disais, je me stimule énormément avec l'analyse, fait que je suis tout le temps en train de prendre ce que je vois autour de moi, puis je m'en sers pour expérimenter. Et j'avais le goût de dire, ça doit être un peu comme... Pareil pour toi, mais moi, ma tête, c'est une cacophonie, là, à tel point que quand je réécoute les épisodes pour faire du montage, je suis surprise de voir à quel point c'était pas si cacophonique parce que je sais plus ce que j'ai dit ou ce que j'ai pensé. C'est assez impressionnant.
Oui, non, je suis d'accord, c'est la même chose pour moi. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre tête.
J'ai trouvé, en fait, ma conclusion que je voulais dire tantôt. C'est que je voulais arriver à dire que, dans le fond, tous ces trucs-là qui peuvent sembler inutile ou de la sur-analyse que je fais dans ma tête presque constamment, ces trucs-là servent en fait parce qu'ils me servent à mieux nommer et mieux enseigner aux gens. Voilà. Donc, c'est un peu comme si mon cerveau, les expériences infinies que je faisais dans le vide comme ça, ben ils finissent par servir à mes étudiants, mes participants. Là.
Oui, puis j'ai goûté, je suis toujours pas capable de relire le mot, mais je me souvenais de qu'est-ce que je voulais écrire. C'était automatisme, dans le sens où le corps est ainsi fait qu'il prend toujours le chemin le plus simple, le plus rapide. Fait que c'est comme un muscle, en fait, que tu entraînes. Fait que plus tu le fais, plus ça devient facile, plus tu es capable de développer des automatismes dans ton interprétation. Donc, il y a moins de ressources nécessaires, je suppose, à cette interprétation-là, éventuellement.
Absolument. Puis c'est, ouais. je fais la même chose avec mes étudiants. Là. C'est sûr qu'on peut pas aborder ça, Solène, mais le truc du chevreuil, c'est ça. Là.
Ouais.
C'est pas le truc, c'est pas de tout analyser, mais il faut passer par un petit moment qui est un peu plus artificiel, qui est une analyse forcée pour arriver à ce que ça devienne naturel.
C'est-tu un teaser, ça, pour inciter les gens?
Non, vraiment pas. C'est vraiment juste ma pédagogie. T'sais, moi, il y a une chose que je voulais à travers mes formations, c'était que ce soit applicable. Je veux que ce soit utile aux gens, pas juste une attestation de présence ou une certification qu'on met sur le mur qui sert à rien, tu sais. Le bout de papier, ultimement, pour moi, il veut rien dire. Moi, je veux que les gens s'en servent. Puis je trouve toujours des nouveaux moyens pour améliorer ça. Mais c'est ça.
En tout cas, sache que pour moi, ça a marché comme un teaser.
Ouais, mais c'est comme apprendre à conduire. C'est comme apprendre à conduire, finalement. Au début, ça tente vraiment une concentration de fou, puis éventuellement, c'est plus automatique. C'est semblable à ça, mais on va suivre. T'sais, au début, on doit s'exercer à remarquer les signaux, puis après, les fameux chevreuils, puis après ça, ben, tu les vois, puis c'est plus instinctif.
Oui, mais après 20 ans, comme moi, de conduite, éventuellement, je dis 20 ans, non, j'ai 30 ans, c'est beau faire 20 ans de conduite. Mais c'est pas grave. Après plus de 10 ans de conduite, tu peux quand même continuellement manquer ta sortie malgré le fait
que tu prends 25 jours. Ça, c'est, ouais, forcément.
Mais par contre, tu sais quand même conduire, puis t'as pas besoin de penser à tous les gestes que tu fais, mettre ton clignotant, faire tes angles morts, tu sais, ça se fait tout seul.
Mais ça m'inquiète quand même des fois parce que j'ai l'impression de me téléporter à ma destination.
Ah, ben tu vois, mais là, on est exactement dans l'analogie parfaite. C'est le cerveau, c'est la même chose. Tu sais, comme n'importe qui apprend à conduire, au début, on est maladroit. Tu sais.
Oui.
C'est très robotique. Ben, c'est la même chose quand tu débutes la synergo. Mais à un moment donné, ça devient très, très, très naturel. Puis tu l'as dit, on utilise de moins en moins de ressources. Et dans notre tête, ça fait 1 plus 1 égale 2, pas 1.
Bravo!
Les résultats arrivent tout seuls. Tu sais.
Exact. Hey, le temps a filé, mais à une vitesse hallucinante. Je ne comprends pas qu'on soit déjà arrivé à la fin du temps imparti.
Oui.
A-t-on couvert tout ce qu'on voulait couvrir ou bien, Manuel, oui. Est-ce que toi, il y a des sujets que tu voulais absolument couvrir avant qu'on conclue?
Moi, il y en a à l'infini, donc on peut conclure cela parce que sinon, on pourra remettre ça pour
un épisode 2.
Un épisode 2 ou une rencontre en personne ou whatever.
Oui, là. Absolument.
Oui, totalement. Mais en attendant, on peut te suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, où t'es quand même très actif et tu partages des perles de sagesse comme ça de temps en temps. Fait que c'est un endroit où tu suis. Fait qu'on veut évidemment mettre le lien de ton LinkedIn. Et puis, sinon, on va donner aussi le lien pour Synergo, ta compagnie, donc pour les cours. que je vous, c'est vraiment un cours que je recommande. Sérieusement, c'est super intéressant.
Moi, je sais totalement quoi demander à Noël.
Que... Ouais, hein?
Oh! En plus, il y a une belle cohorte qui départ, qui débute en janvier.
Regarde, oui. Tu veux ça commencer à arranger avec la personne des vues?
Mais il y a juste deux places. C'est dit.
Bon, ben, Fran, il va falloir que tu décides.
C'est bon.
Tu demandes ton cadeau Noël à l'avance.
En avance. Je dirais bien, je vais demander mon cadeau de fête, mais ma fête étant pas mal juste avant Noël, je peux même pas le devancer.
Mais là, il va falloir que tu fasses ça. Parce que de place, mais sinon, il y a une autre cohorte qui va commencer éventuellement au printemps, j'imagine.
Oui, si c'est pas janvier, février, mars, la prochaine, ça va être avril.
OK. Ouais. C'est bon. Fait que si je suis pas là en janvier, je devrais être là en avril.
Ouais, fait que mais pour nos, notre auditoire, voilà, vous allez pouvoir commencer ça en avril si ça vous intéresse. Peut-être voir Fran en même temps.
Oui,
il faut, faire vite.
Engager
ouais.
En direct.
C'est des petites classes hein, en passant. Là,
oui, mais oui.
J'aime ça le mentionner. Là, c'est des classes de 6 personnes habituellement, mais là, à cause du COVID, c'est 5 pour respecter toutes les mesures. Donc, c'est pas beaucoup 5. Là. C'est, ouais. On est vraiment dans le semi-privé. Là, ça crée une ambiance vraiment très interactive. Là.
Oui, cool. Non, vraiment. Ça, c'est vraiment une ambiance qui est agréable pour l'apprentissage. Qui est... Et puis, les lumières, maintenant, se diminuent dans ta salle. C'est, je dois mentionner qu'Emmanuel a vraiment fait ce changement pour moi. Puis, je suis vraiment toute énervée de ça, là, mais il diminue les lumières maintenant.
Je vais pouvoir en bénéficier alors. Ça, c'est merveilleux.
Puis, écoute, c'est merveilleux. Puis, en plus, j'en avais parlé sur LinkedIn, mais c'est hallucinant comment... avant le premier cours, tu nous envoies un plan du lieu avec un dessin de comment on doit se rendre avec des instructions précises. Écoute, c'est merveilleux. C'est tellement neuro-friendly. Là.
Ah, ben merci. Ben moi, je pars toujours du principe que mes formations, je les fais comme je voudrais qu'elles soient faites. Oui. Comme moi, je voudrais assister à une formation. J'en ai fait vraiment, vraiment beaucoup des formations continues dans ma vie. Là. Mm-hmm. Plusieurs dizaines. Là, puis dans le fond, tous les irritants que j'avais ailleurs, je les ai enlevés chez nous. Puis j'ai ajouté ce que j'aurais aimé voir. Fait que, tu sais, oui, c'est une expérience client quand même qui je considère est relativement qualitative. Là.
Ah ouais, non, mais je suis vraiment impressionnée puis agréablement surprise là, parce que c'est quelque chose que je me pose comme question à chaque fois. Tu sais, à quoi ressemblent les lieux puis comment me rendre. Puis t'as tellement répondu à cette question-là. C'est hallucinant. Fait que vraiment...
Faut faire du repérage.
Oui, écoute, c'est vraiment cool. Fait que là-dessus, ben merci beaucoup d'être venu avec nous. C'est à une prochaine parce que écoute, oui. On a tellement de choses à jaser que c'est clair qu'on va pouvoir remettre cette conversation en privé ou sur les ondes. Fait que ben merci.
Merci beaucoup de ta générosité là. J'ai juste hâte à la prochaine conversation. Et bonne semaine à notre auditoire. Puis notre auditoire, n'hésitez pas là, si vous avez des questions, si ça vous suscite des réflexions, écrivez-nous que ce soit en privé ou directement sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir d'y répondre et peut-être que Manuel passera par là aussi.
Qui sait? Merci beaucoup, mesdames, de l'invitation.
Plaisir. À la semaine prochaine.
Bye.
Vous avez apprécié l'épisode? Vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer. Pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.